Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal et juste après on ouvre comme chaque soir le club des idées. On vous décrypte le monde qui change et on prend le temps de se faire son opinion. Et ce soir, retour sur une affaire qui avait ému la France, l'assassinat de Laetitia Perret par le multirécidiviste Tony Meillon. Elle avait 18 ans, elle était pleine de vie. Une série bouleversante revient sur cette tragédie ce soir sur France 2. Alors où en est-on aujourd'hui de l'aide à l'enfance et du suivi des multirécidivistes? On en débattra avec nos invités. Et juste avant, ce sera la carte blanche du club des idées avec ce soir, comme chaque lundi, l'écrivain Philippe Besson, La République en marche, rien ne va plus, nous dira-t-il. Mais d'abord le journal, avec vous, Simon Rubin. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe.
Il y a quand même un petit espoir du fait qu'ils veulent quand même discuter. Ils auraient pu dire aujourd'hui, bon bah c'est tout, la porte est fermée. Mais j'ai bien précisé qu'il ne faut pas nous balader pendant X temps.
Face à Bridgestone, le gouvernement contre-attaque pour sauver l'usine de Béthune que le géant industriel veut fermer. Vous l'entendez, les syndicats veulent croire en la possibilité d'une négociation.
Interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, restriction des visites en EHPAD, port du masque étendu à plusieurs communes. Dans le Rhône, le préfet et l'ARS musclent leurs mesures contre le Covid-19.
Révélation tonitruante sur les dérives parfois criminelles de la finance. De nombreuses banques internationales sont épinglées par une enquête journalistique qui révèle des transactions suspectes et du blanchiment d'argent.
L'Europe incapable de prendre des sanctions contre la Biélorussie malgré le plaidoyer vibrant de la figure de l'opposition devant le Parlement européen. Nous serons à Bruxelles pour comprendre ce qui ressemble à un nouveau couac de l'Union.
Vous entendrez également l'hommage de Lambert Wilson à son camarade de jeu Michael Lonsdale. L'acteur est décédé à l'âge de 89 ans.
Et puis Roland Garros, c'est parti. Pas de tournoi principal pour l'instant, mais des qualifications à huis clos. On vous emmène au bord des cours. La tendance météo avec vous Anissa et du beau temps encore un peu demain au nord.
Et la France est coupée en deux une nouvelle fois demain avec du soleil sur la moitié nord. Va falloir en profiter ces derniers jours et beaucoup d'averses et d'orages sur la moitié sud. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le bras de fer a donc commencé ce soir entre le gouvernement français et le géant japonais Bridgestone. Les ministres du Travail et de l'Industrie ont réuni aujourd'hui tous les acteurs du dossier pour tenter de sauver les emplois.
Et on parle ici de 863 emplois menacés. Lionel Gougelot, vous êtes à Béthune, vous avez suivi cette réunion. L'enseignement de cette journée, c'est que le dialogue n'est pas complètement rompu.
Ah oui, effectivement, c'est le sentiment que l'on a parce que même si Bridgestone considère que la fermeture de son usine de Béthune est le seul moyen de rester compétitif en Europe, le groupe se dit prêt maintenant à étudier d'autres solutions, d'autres scénarios alternatifs, comme l'on dit, à cette fermeture de l'usine. C'est ce que veut retenir Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France.
Ils ont étudié un projet d'investissement sur le site de 160 millions d'euros, en imaginant même des financements publics à 30%, 50%, 70%. Donc on leur a dit, vous nous les proposez. On va dire oui pour cofinancer et dans ces cas-là, vous les remettez sur la table. Réponse dans 15 jours. 15 jours, on saura s'ils se foutent de nous ou s'ils veulent vraiment trouver une solution.
Alors évidemment, rien ne garantit que le géant japonais du pneu sera prêt à investir massivement pour sauver le site de Béthune. Mais la mobilisation politique permettra peut-être d'éviter le pire. C'est le mince espoir de Bruno Wable, délégué CGT.
L'espoir, oui, on va le garder, c'est clair. Même si qu'il est minime, il est clair qu'on va le garder. Mais j'ai bien précisé non plus qu'il ne faut pas nous balader pendant X temps. Puisqu'on connaît quand même cette direction de Bridgestone, comment elle opère. Mais il y a quand même un petit espoir du fait qu'ils veulent quand même discuter. Ils auraient pu dire aujourd'hui, bon bah c'est tout, la porte est fermée, donc on se raccroche là-dessus.
Mais 5 jours après l'annonce de la fermeture, on sent encore des salariés avec les nerfs à fleur de peau, confidence d'un responsable syndical. Pour l'instant, on arrive à les canaliser, mais attention, la colère pourrait éclater.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.
Dans le Rhône, à présent, de nouvelles mesures contre le coronavirus. Les rassemblements sont limités à 1000 personnes, les visites restreintes dans les EHPAD et le port du masque obligatoire est étendu à 10 communes proches de Lyon.
Annonce du préfet du Rhône et de l'ARS. Aujourd'hui, l'ARS qui fait état de 43 décès de patients atteints du Covid-19 depuis le début du mois, alors qu'il n'y avait plus aucun décès lié au Covid en juillet et en août. Pascal Mayos, préfet du Rhône, a toutefois tenu à maintenir l'activité des bars et restaurants et il explique pourquoi.
Nous avons décidé de ne pas fermer les bars et restaurants, considérant qu'il valait mieux que les gens soient dans ces établissements plutôt que sur la voie publique. Il y a des professionnels dont c'est le métier, et bien nous faisons le pari qu'effectivement ils peuvent encadrer cette activité plutôt finalement que de laisser chacun responsable de son comportement. Des contrôles seront effectués de façon sont beaucoup plus soutenues dans les deux semaines qui viennent, de façon à sanctionner de façon exemplaire les établissements qui ne respecteraient pas les règles qui sont édictées par les autorités sanitaires.
Certains vont vous dire que vous ne tapez peut-être pas assez fort.
Mon objectif n'est pas de taper. Mon objectif est de faire comprendre à nos concitoyens qu'il nous faut assurer la cohabitation de deux principes. Le premier, faire reculer l'épidémie. Et le deuxième, préserver au maximum l'activité individuelle et collective.
Le préfet du Rhône, propos recueillis par Jean-Luc Boujon. Et puis aujourd'hui, 7 nouveaux centres de dépistage Covid ouvrent en Île-de-France. L'idée, c'est de soulager les laboratoires saturés, de permettre d'obtenir des résultats plus vite. Et d'ici 2 semaines, la région Île-de-France prévoit d'ouvrir 20 centres de ce genre.
Oui, et puis en Espagne, c'est une autre histoire. On passe à l'étape d'après avec un reconfinement par quartier dans les banlieues et grandes banlieues de Madrid. Plus de 800 000 personnes sont tout de même concernées.
Deutsche Bank, ING, HSBC, de grandes banques internationales ont plongé en bourse aujourd'hui après la publication d'une vaste enquête d'un consortium de journalistes qui révèle de nombreuses activités suspectes et même des cas de blanchiment d'argent.
Et pour en parler, Élise Dangean du service économie. Élise, bonsoir. On parle de blanchiment, bonsoir. On parle de transactions suspectes. Est-ce qu'on sait quelles sommes sont en jeu, ce que ça représente?
Absolument, et ça donne le vertige. On parle de 2000 milliards de dollars de transactions entre 1999 et 2017. Dans cette enquête, menée par une centaine de médias internationaux, le consortium donne le détail. Argent de la drogue ou d'actes criminels, fortune détournée de pays en développement. Bref, de l'argent sale qui a pu entrer et sortir des banques malgré les avertissements de leurs propres employés. À la base de ces révélations, des milliers de rapports d'activités suspectes. Ce sont des signalements transmis à la police financière du Trésor américain par des banques du monde entier, le tout hors de la vue du public. Certaines banques auraient même continué leurs activités après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière. Alors depuis la parution de l'enquête, quasi toutes les banques ont plongé en bourse, vous l'avez dit, et tentent désormais de se défendre d'accusations ancienne, bien connue et résolue selon la plupart.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
À l'étranger maintenant, la figure de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, était à Bruxelles aujourd'hui pour demander l'aide de l'Europe. La Biélorussie qui traverse, vous le savez, une crise politique sans précédent après l'élection tronquée d'Alexandre Loukachenko début août.
Et députés européens et ministres ont écouté avec attention Svetlana Tikhanovskaya et Isabelle Ory, malgré son plaidoyer, l'Union européenne n'a pas pu s'accorder sur des sanctions à l'encontre de la Biélorussie.
Non, et pourtant, Svetlana Tikhanovskaya s'est montrée éloquente et même émouvante lors de ses interventions à Bruxelles. Devant les députés européens, la figure de proue de l'opposition biélorusse a sorti de grandes photos illustrant la répression, la torture ou la mort de ses compatriotes. Malgré cela, nous manifesterons dans les semaines, les mois ou les années qui viennent si nécessaire, a-t-elle lancé, avant de préciser ce qu'elle attendait des Européens.
J'apprécie vos efforts pour nous aider sur des choses basiques. Il faut reconnaître l'absence de légitimité de M. Loukachenko, demander la libération des prisonniers politiques et introduire des sanctions individuelles contre tous ceux qui sont impliqués dans la falsification de l'élection et la répression. Nous avons besoin de votre soutien.
Sauf que ce soutien, il se fait attendre. Aujourd'hui, les 27 ont été incapables d'adopter des sanctions ciblant 40 membres du régime. C'est un de ces pataquès dont l'Europe a le secret. Chypre a mis son veto. Nicosie est pour les sanctions, mais les Chypriotes veulent en parallèle des mesures contre la Turquie pour ses forages illégaux en Méditerranée. Résultat, Svetlana Tikhanovskaya repart les mains vides. Les chefs d'État qui ont rendez-vous en fin de semaine récupèrent le dossier. À eux de trouver un accord. La crédibilité de l'Europe en dépend, selon le chef de la diplomatie de l'Union.
Isabelle Ory, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Europe 1, Julien Bugier.
19h08, on se retrouve dans quelques secondes. À la suite de la publicité, on parlera de cette rencontre des opposés, d'une certaine manière, entre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle. Ils se sont rencontrés.
Et puis on ira à Roland-Garros. Le grand tournoi débute dimanche, mais les qualifications ont déjà commencé à huis clos.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Oui, 19h10, la suite de votre journal avec toujours Simon Rubin et cette rencontre électrique, peut-être, aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, invité par le ministre Gérald Darmanin. Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, est venu discuter sécurité.
Et les deux hommes s'étaient écharpés sur le sujet tout récemment. À l'issue de la rencontre, Gérald Darmanin a annoncé l'ajout de 14 policiers nationaux dans les rues de Grenoble. Et puis, il a aussi proposé de renforcer la vidéosurveillance, de réfléchir à l'armement de la police. autant de mesures à l'opposé des convictions du maire de Grenoble, Éric Piolle, qui s'est d'ailleurs montré plus que dubitatif à la sortie du rendez-vous.
Tous ceux qui ont mené ces politiques répressives, comme le ministre engage aujourd'hui le gouvernement, tous ceux-là sont revenus en disant qu'ils s'étaient plantés et qu'ils devaient changer de tactique en matière de santé publique, en matière de mobilisation des moyens financiers du gouvernement, en matière de conditions de travail pour la police, en matière de sécurité. Et donc, en profitant de cette expérience qui est quand même maintenant de plus en plus largement partagée un peu partout dans le monde, ce n'est pas ma perspective. Lui, il fait le choix de la répression. Il faut qu'il nous dise finalement c'est quoi les indicateurs qui mesureront le succès de cette politique en matière de santé, en matière de sécurité également. C'est évidemment ce qui est attendu.
Éric Piolle, le maire de Grenoble, au micro de Jean-Rémy Baudeau.
Bon, pour la réconciliation, ça sera pour plus tard. Oui. L'acteur Michael Lonsdale est décédé. Il avait 89 ans, on l'a appris aujourd'hui. Il avait joué notamment au cinéma avec les plus grands, Truffaut, Jean-Pierre Mocky ou encore Alain René.
Et on se souvient aussi de son rôle dans Des hommes et des dieux qui retrace l'enlèvement avant l'assassinat en 1996 en Algérie de 7 moines cisterciens à Tibirine. Écoutez le témoignage et l'hommage de Lambert Wilson qui avait joué avec lui sur ce film.
Il avait compris beaucoup de choses sur le cinéma, notamment il était très peu démonstratif, la caméra vraiment venait voler son intelligence dans son regard. Quand je pense à Michael Lonsdale, je pense surtout à sa voix. C'est une voix de chanteur d'opéra qui serait au repos, qui parlerait simplement plutôt que de chanter. Et on s'imagine subitement qu'il allait entonner un air de basse profonde russe pour jouer des Rasputin, pour jouer des personnages comme ça très, très enflammés, avec une très grande profondeur et une grande virilité dans le timbre. Michael Lonsdale était un homme très croyant. Sans doute, il devait attendre quelque chose de l'ordre du merveilleux au moment de son départ. Alors, je lui souhaite.
Lambert Wilson au micro de Johanna Chabas.
Et on termine avec du sport. Du sport et le début de Roland-Garros aujourd'hui. En tout cas, ce sont le début des qualifications.
Le tournoi principal, effectivement, débutera dimanche. Mais en attendant, ce sont les joueurs et joueuses moins bien classés qui vont tenter d'obtenir une place pour le tableau final. Alors on commence, ça y est, à entendre le bruit des échanges, les annonces des arbitres. Un tournoi évidemment particulier. Covid oblige, hein, Corinne Boulou.
Oui, respecter ces précautions, c'était la condition sine qua non pour pouvoir disputer le tournoi. Alors ces qualifications se disputent, c'est vrai, sans public, mais il y a tout de même quelques personnes accréditées, disséminées ici ou là sur les gradins. Des ramasseurs de balles, par exemple, dans l'attente de rentrer sur un court. L'occasion aussi pour eux d'écouter les dernières consignes.
N'oublie pas le petit coup de lavage de main avant le changement de balle, ça vraiment, ça devient un automatisme, ok ? Pour tout le monde.
Un millier de personnes a déjà été testé pour 2 cas positifs et 3 cas contacts. Tous les 5 exclus de Roland-Garros. Enzo Cuoco, premier Français à passer aujourd'hui au deuxième tour des qualifications, se plie aux contraintes particulières de cette édition comme tout le monde.
Il y a vraiment tout qui est mis en place et tout qui est fait avec l'isolement en arrivant à l'hôtel, avec le nombre de personnes limitées. Il y a vraiment tout le possible qui est mis en place pour nous permettre de jouer dans des conditions saines. Pour aller sur le terrain, on a une entrée spéciale pour ne croiser personne. Donc voilà, c'est sûr que c'est bizarre parce qu'on s'attend à avoir un peu de soutien à domicile, entre guillemets, à avoir un peu d'effervescence dans le grand chelem qu'on n'a pas.
Et en prime, le soleil a accompagné cette première journée de qualification sur les 12 cours annexes de Roland-Garros. Une aubaine en ce début d'automne.
Corinne Boulou qui suivra l'ensemble du tournoi pour nous, un Europe 1 radio officiel de Roland-Garros. Et puis un dernier mot de cyclisme, une enquête préliminaire ouverte sur des soupçons de dopage et qui vise une équipe du Tour de France, Arkea Samsic. C'est l'équipe du Français Warren Barguil notamment. La procureure évoque la découverte de nombreux produits de santé, dont des médicaments. Et surtout, une méthode pouvant être qualifiée de dopante.
Affaire à suivre, l'info vient de tomber il y a quelques instants. C'est une dernière minute. Merci Simon Rubin pour l'info. La météo avec vous Anissa, et vous nous annoncez un début d'automne pluvieux parce que l'automne débute officiellement demain.
Oui, c'est le premier jour effectivement de l'automne. Demain, c'est l'équinoxe en ce 22 septembre. Sur la moitié sud du pays, le temps est agité, toujours au sud de la Loire, avec dès demain matin des averses et des orages en Auvergne, en Provence pour le matin. Et puis dans l'après-midi, il pleut toujours sur toute la moitié sud et les orages vont se multiplier. Ils peuvent être localement forts en Auvergne, sur la Côte d'Azur, sur les Alpes, la Corse et le Poitou-Charentes. Là, le tonnerre gronde assez fort. Alors sur la moitié nord, là c'est un autre scénario. Après la dissipation des nombreux brouillards matinaux, le soleil va prendre le dessus et il va régner en maître, notamment sur les Hauts-de-France, la région parisienne et l'Est. On aura un soleil sans aucun nuage dans le ciel. Profitez-en, c'est la dernière belle journée d'été. Les températures, 6 à 18 degrés demain matin de Charleville-Mézières à Nice.
Vous dites ça comme ça. C'est la dernière belle journée d'été, en fait, comme ça, à l'air de rien.
Mais non, mais je le dis vite pour que voilà, ça passe mieux.
C'est mieux.
Dans l'après-midi, demain, nous aurons 17 degrés à Aurillac, ça baisse bien, 21 à Clermont-Ferrand et Lorient, 23 à Biarritz, 25 à Lille et Nice, 27 à Paris, 28 à Nancy. Je vous le dis très vite aussi, mais jeudi, nous serons bien en dessous des normales de saison. Il va falloir ressortir les pulls.
Allez, filez. Merci Anissa, c'est un plaisir de vous retrouver chaque soir à partir de 18h à nos côtés dans Europe Soir. À demain. 19h15, on ouvre maintenant comme chaque soir le Club des Idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Et ce soir, comme chaque lundi, c'est l'écrivain et essayiste Philippe Besson qui est avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors Philippe, ce soir, vous voulez nous parler de la crise que traverse La République En Marche, alors que Pierre Persson, qui en était le numéro 2, a démissionné de ses fonctions ce matin avec fracas.
Oh bah la crise, vous êtes gentil Julien. Moi je dirais plutôt que ça sent le sapin, vous voyez, et que la REM n'est plus qu'un grand cadavre à la renverse, pour reprendre l'expression jadis employée par Sartre pour parler de la gauche. Pourtant, souvenez-vous, les choses avaient bien commencé en 2016. En Marche était alors présenté comme un mouvement, afin qu'on imagine un élan, une dynamique. Il serait différent des partis traditionnels, sclérosés, nécrosés, repliés sur eux-mêmes, déconnectés des réalités, minés par des luttes de pouvoir. Bah, 4 ans plus tard, force est de constater que c'est précisément exactement ce qu'il est devenu.
Ah bon ?
Bah oui, en effet, où sont passés la fourmilière, la pépinière, le think tank ? Aujourd'hui, En Marche, c'est zéro vision, zéro idée neuve, zéro proposition originale, zéro travail de fond. En Marche, souvenez-vous, ça devait être l'intelligence collective, la démocratie participative, la vérité qui vient de la base, les idées puisées parmi le peuple. Aujourd'hui, c'est un mouvement vertical, sans implantation locale, une coquille vide, hein, qui enchaîne les déboires électoraux, hier au municipal, demain au sénatorial, et je prends les paris qu'au printemps, les régionales tourneront également au désastre. En Marche, ce devait être la transgression, la disruption. Bah, c'est devenu la courroie de transmission du pouvoir, le petit télégraphiste du gouvernement répétant jusqu'au grotesque et le petit doigt sur la couture du pantalon les éléments de langage fournis par l'Élysée.
Alors le patron, dites donc comme vous y allez, le patron de La République En Marche, il s'appelle Stanislas Guérini. Il ne fait pas le job selon vous ?
Stanislas qui ? Vous voulez parler
Stanislas
du type qui tient officiellement la boutique depuis bientôt 2 ans et que personne ne connaît.
Vous allez nous fâcher avec lui, là, Philippe Besson.
Non, mais vous savez qu'à ce niveau-là...
Mais c'est votre carte blanche.
Oui, absolument. Vous savez qu'à ce niveau-là, c'est plus du déficit de notoriété, hein, c'est de la clandestinité. On jurerait que le type recherche l'anonymat. Remarquez, c'est peut-être préférable parce que l'homme, en dépit de qualités humaines indéniables, manque cruellement de charisme et d'autorité et que son management est particulièrement déficient. Bon, il a néanmoins une excuse. Il était supposé diriger un mouvement progressiste. Il se retrouve chargé de vendre une politique de droite. Ce genre de contorsion ne vous permet guère de gagner en crédibilité.
Vous semblez oublier un certain Emmanuel Macron, président de la République. Que les marcheurs ont conquis la majorité à l'Assemblée nationale.
Ils sont dans la place. Non, mais ils sont dans la place. Vous avez raison, Julien. Mais le problème, justement, c'est que est-ce que c'est pas que ce parti s'en remette entièrement à son fondateur, dépendent exclusivement de lui, attendent tout de lui, ne soit au fond que sa créature. D'autant qu'Emmanuel Macron, en retour, il ne s'en occupe guère. Hein. Pour lui, c'était une rampe de lancement, désormais paraissant désintéressé, pour la bonne raison qu'il est convaincu qu'en 2022, il gagnera ou perdra sur son seul nom. Alors, à quoi bon perdre son temps ? Par ailleurs, les marcheurs ont certes conquis la majorité au Palais Bourbon en 2017, vous le disiez, mais depuis... Ils l'ont perdue, elle ne cesse de s'étioler au gré des départs, au fil des désaccords. De surcroît, si quelques figures ont réussi à exister médiatiquement tant bien que mal, la plupart des députés demeurent des inconnus et une partie non négligeable n'envisage même pas de rempiler dans 18 mois.
Mais par conséquent, cher Philippe Besson, quel avenir vous prédisez à En Marche ?
À peu près aucun. Aucun.
Ah oui,
aucun s'il ne se réforme pas en profondeur, s'il ne va pas à la rencontre des Français, s'il ne change pas de direction et s'il ne produit pas du sens, aucun avenir. C'était un accident de l'histoire et indépendamment du destin d'Emmanuel Macron, ça pourrait le rester.
Bon, on prend date pour la suite avec vous. Merci.
Absolument.
Philippe Besson pour cette carte blanche comme tous les lundis.
Europe 1, Julien Bugier.
19h19, on poursuit dans quelques secondes avec le débat du Club des Idées consacré ce soir à l'affaire Laetitia Perret qui avait, souvenez-vous, bouleversé la France. C'était en 2011, une série diffusée ce soir sur France 2 nous replonge dans cette affaire inédite. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 19h22 et on ouvre maintenant, comme chaque soir, le débat du Club des Idées consacré aujourd'hui à la série événement Laetitia qui sera diffusée tout à l'heure sur France 2 à partir de 21h05. L'histoire de cette jeune fille dont l'assassinat a bouleversé la France. Elle avait 18 ans, elle était pleine de vie, jusqu'à ce qu'elle croise la route du multirécidiviste Tony Meillon. ce qui avait, souvenez-vous, relancé le débat à l'époque sur le suivi des délinquants sexuels et le rôle des services sociaux. Alors les choses ont-elles changé depuis cette tragédie ? Aurait-elle pu être évitée d'une certaine manière ? Comment aussi mieux accompagner les enfants placés dans des familles d'accueil ? On en parle donc ce soir avec Yvan Jablanka, historien, écrivain. Vous êtes l'auteur de Laetitia ou La fin des hommes, livre très fort, récompensé par le prix Médicis et qui a précisément inspiré cette série réalisée par Jean-Xavier de Lestrade. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parle également avec Ondine Millot. Vous êtes journaliste indépendante et vous avez suivi cette affaire à l'époque, pour Libération, et vous avez récemment publié « Les monstres n'existent pas », c'est aux éditions au Stock.
Bonsoir.
Et puis Jean-Pierre Rosenzweig, vous êtes magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny entre 92 et 2014, je crois, c'est ça ?
Bien. C'est ça, bonsoir.
Bonsoir monsieur. Et puis Cécile De Oliveira est avec nous par téléphone. Bonsoir madame, vous êtes avocate de Jessica Perret, qui est donc la sœur jumelle de Laetitia, dont on suit également à travers cette série le parcours et la reconstruction dans la série. Merci d'être avec nous et de nous accorder quelques instants. C'est vrai que ce soir, on a aussi envie de vous entendre. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter d'abord un extrait de cette mini-série de 6 épisodes, dont la diffusion débute donc ce soir sur France 2 à 21h05.
L'adjudant-chef Touchet, division crime violente de la section de recherche d'Angers. On va reconstituer la journée de Laetitia en détail. Surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là.
Je ne la retrouverai jamais !
Les tests ADN montrent que les parties du corps appartiennent bien à Laetitia.
Il vous manque des morceaux, hein, dépêchez-vous. À ce rythme-là, il va plus en rester.
C'est la première fois dans ma carrière que je vois un truc pareil.
Pour qui es-tu prêt, cette salope ?
Voilà pour cet extrait, les 3 premiers épisodes donc ce soir sur France 2 à 21h05 et on est très fiers à Europe 1 d'être partenaire aussi de cette grande soirée. Alors c'est bouleversant de bout en bout, magistralement interprété et au-delà du fait divers tragique, il y est question de la condition des enfants placés, il y est question aussi de la condition des femmes et de la récidive. Qu'est-ce qui vous a le plus touché vous dans cette histoire, Yvan Jablanka? Vous avez écrit ce livre, je le disais, qui s'appelle Laetitia ou la fin des hommes et qui a donc inspiré cette série.
Ce qui m'a touché, c'est le destin de Laetitia Perret, une jeune femme de 18 ans qui a été détruite dans un pays démocratique, riche et en paix. Et j'ai voulu comprendre pourquoi et comment.
Qu'est-ce qui vous a décidé à en faire un livre et comment vous avez réussi à convaincre l'entourage? Parce qu'il y a aussi la sœur jumelle, hein, qui est un personnage très très fort dans le livre, qui a aujourd'hui évidemment du mal à se reconstruire. Comment vous les avez convaincus, comment vous les avez approchés pour pouvoir d'abord écrire ce livre et puis ensuite faire la série qui s'en est suivie?
J'ai senti la nécessité d'écrire la vie de Laetitia Perret parce que je crois que ce qu'on doit aux victimes et aux disparus, c'est la vérité. C'est la vérité de leur histoire, de leur parcours. Et ça importait pour moi de rappeler que Laetitia n'est pas un fait divers, Laetitia n'est pas un cadavre. Laetitia, oui, c'est une jeune femme qui avait une vie et surtout la vie devant elle. Et donc, j'ai voulu, ça a été un petit peu ma plateforme conceptuelle, si vous permettez ce vilain mot, pour parler d'une vie humaine. Et c'est ce que j'ai dit à Jessica Perret et à son avocate Maître de Oliveira quand je les ai rencontrés pour la première fois en 2014. Je leur ai dit, Laetitia n'est pas un fait divers. Et aujourd'hui, quand on ouvre un journal, on a l'impression que sa vie se résume à sa mort.
Vous dites quelque chose de très puissant au début de votre livre. Vous dites, ce fait divers est exceptionnel à tous égards. C'est une affaire d'État. Vous dites ce mot, c'est une affaire d'État.
Bah, c'est devenu une affaire d'État. Il y a des affaires nationales comme la mort du petit Grégory dans les années 80, mais il y a des affaires d'État. Les affaires d'État, c'est lorsque les plus hautes autorités d'un État, en l'occurrence le président de la République de l'époque et tout son gouvernement, s'emparent d'un fait divers pour le transformer en objet politique. Et en ce sens, Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont fait en quelque sorte campagne, oui, sur le corps de Laetitia.
Et ce qui a suscité une fronde des magistrats totalement inédite, une grève national parce qu'ils ont été mis en accusation et qu'ils posaient à travers cette prise de position le suivi des multirécidivistes. On en parlera évidemment tout à l'heure. Ondine Millot, peut-être un mot de réaction. Vous êtes journaliste indépendante à Libération à l'époque. Vous avez suivi cette affaire de près, hein, les audiences, le procès, l'enquête qui a duré plusieurs semaines. D'abord, qu'avez-vous pensé de cette série ?
À cette série, je l'ai retrouvée remarquable parce que j'ai retrouvé ce que j'avais suivi. J'ai été aux deux procès, en fait, de Tony Meillon, le premier, l'appel, et puis j'ai été aussi au procès de Gilles Patron. Alors, Gilles Patron, c'est le père d'accueil, entre guillemets, de Laetitia et Jessica, et c'est la personne donc, qui a agressé Jessica, peut-être Laetitia et un certain nombre d'autres enfants placés.
Et on s'en est aperçu a posteriori, voilà. Après l'histoire de l'assassinat et la première affaire, qui est donc le meurtre de Laetitia par Tony Meillon. On s'est aperçu après que ce père d'accueil, qui était éploré, qui organisait les marches blanches, qui a été reçu par le président Sarkozy, était en fait un salaud.
Oui, alors on s'est aperçu, effectivement, un salaud, je ne sais pas, mais un agresseur sexuel en tout cas, et multirécidiviste pour le coup, qui donc, était en tête, effectivement, de démarches pour demander la peine de mort contre les agresseurs sexuels récidivistes. Et vous me posiez la question sur la série. Je trouve que tout ça est rendu très, 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 très bien. Ouais, quoi. On retrouve une vérité. Enfin, on retrouve une vérité presque plus vraie parfois que dans certains comptes rendus journalistiques.
Cécile de Oliveira, vous êtes avocate de Jessica Perry, qui est donc la sœur jumelle de Laetitia. Peut-être d'abord un mot de Jessica. Comment va-t-elle aujourd'hui? Parvient-elle à se reconstruire?
Jessica parvient à se reconstruire avec beaucoup d'énergie, en prenant une distance importante avec cette tragédie, une distance géographique, une distance psychique, oui, bien sûr. Après, je ne sais pas si le mot reconstruction est toujours adapté aux êtres humains. C'est un mot qu'on utilise fréquemment après un drame terrible. Je pense qu'il est plus facile de reconstruire un immeuble qu'une personne humaine.
Bien. Vous restez avec nous, madame. Évidemment, on a d'autres questions à vous poser. Dans quelques secondes, juste après la première pause, on va notamment parler de ce débat qui avait suivi cette affaire sur le suivi judiciaire des multirécidivistes. Où en est-on aujourd'hui? Le débat est-il justifié? On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, on est toujours ensemble dans le débat du Club des idées consacré ce soir à cette série événement Laetitia qui sera diffusée tout à l'heure à partir de 21h05 sur France 2. L'histoire de cette jeune fille dont l'assassinat par Tony Meillon, le multirécidiviste, a bouleversé la France. Alors c'est vrai que cette série et le livre que vous avez écrit, Ivan Jablonka, qui s'appelle donc Laetitia ou la fin des hommes, pose aussi la question de la protection sociale des enfants, parce que c'est vrai que la vie de Laetitia a été un chaos. Bébé maltraité, gamine oubliée, fillette placée, ado timide. Vous dites d'ailleurs il y a eu des failles dans les services sociaux, ce qui est une forme de violence. Et vous dites son histoire à Laetitia, elle incarne deux phénomènes plus grands qu'elle, la vulnérabilité des enfants et les violences subies par les femmes.
Oui, j'ai essayé d'analyser la vie de Laetitia dans le temps long. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la mort de Laetitia, ce n'est pas un fait divers, c'est un fait d'histoire, c'est un fait social. Une jeune femme qui et ainsi assassinée à l'âge de 18 ans, ce n'est pas une anecdote qui mérite un entrefilet, ça mérite au contraire une analyse de long terme. Et il y avait deux aspects de zone de fragilité qui expliquent le destin final de Laetitia. C'est les violences qu'elle a subies en tant que femme, oui, par son père biologique, puis son père d'accueil. Puis,
toute son enfance est un chaos de violences qui s'enchaînent.
Oui, c'est surtout une espèce de continuité, génération après génération, de violence, de négligence, de mépris, puis qui finissent par détruire quelqu'un. Et puis le deuxième aspect, vous le disiez, c'est les failles dans le placement des enfants et une certaine négligence qui l'a entourée. Maintenant, l'État a fait quand même beaucoup pour elle et sa sœur. L'État a bien réussi. Et puis, il faut croire qu'il y a eu cette faille qui ne pouvait être réparée.
Sur les failles, Jean-Pierre Rosenzweig, vous êtes magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, entre, je le disais, 92 et 2014. Ce sont des sujets, évidemment, que vous connaissez bien. Il y a deux choses qui frappent quand on voit la série et quand on se plonge dans cette affaire de Laetitia. Il y a le délai avant qu'elle soit placée d'abord en foyer, puis ensuite en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on privilégie la famille, alors qu'on sait que son papa est un homme violent, est un homme instable avec qui ça se passe mal. Il a violé la mère de Laetitia, elle est en prison pour ça. Et puis un deuxième élément, quand elle est dans cette famille d'accueil, il y a une main courante qui est déposée par une jeune fille pour agression sexuelle et qui devrait alerter les services sociaux et il ne se passe rien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ça, cette défaillance des services sociaux?
Toujours difficile d'expliquer les défaillances. En sachant au passage qu'on voit les trains qui n'arrivent pas à l'heure et pas les trains qui arrivent à l'heure. Donc c'est une affaire exceptionnelle dans tous les sens du terme. Alors, pourquoi a-t-on mis autant de temps à faire accueillir, pardonnez-moi de ne pas utiliser le mot placement, mais Je pense qu'on place un objet, mais qu'on accueille une personne.
On accueille un enfant.
Donc pourquoi a-t-on mis autant de temps à faire accueillir cette jeune fille lorsqu'il y avait des signes de maltraitance? Je n'en sais rien en l'espèce, ouais, ouais. Cette histoire-là. Il faut quand même rappeler la loi. La loi veut qu'a priori, on ne sépare pas parents et enfants, sauf exceptionnellement. Alors tout le débat sur exceptionnel. Est-ce qu'il y avait effectivement, dans cette affaire, et apparemment oui, des éléments qui faisaient que cette jeune fille ne pouvait plus vivre dans sa famille?
Mais on privilégie toujours la famille d'abord.
Ben, c'est l'ordre de la loi. L'ordre de la loi, c'est qu'a priori, un enfant est élevé par ses parents. Et que trop souvent, on a vu des enfants retirés à leurs parents, placés, pour reprendre l'expression, à 800 km de chez eux. On a rompu artificiellement le lien parent-enfant quand ça ne se justifiait pas, et les enfants sont devenus orphelins de leurs parents qui étaient vivants. Donc effectivement, on a essayé dans les 50 dernières années de revenir sur tout ça et de dire ce n'est qu'exceptionnellement qu'il faut rompre le lien parent-enfant, le rompre juridiquement, physiquement, sinon le rompre juridiquement.
Ça concerne 300 000 enfants, c'est ça à peu
non,
près
Non. Il y a actuellement, je vais vous donner les chiffres, il y a environ 450 000 enfants
450 000.
Qui sont suivis par les associations enfance. Oui. Le mot suivi est important. Certains sont accueillis physiquement, 170 000. Certains vivent chez eux, mais sont suivis par des éducateurs, 150 000. Et d'autres bénéficient, 150 000 environ, de secours d'urgence et d'allocations mensuelles. Ceux qui sont accueillis physiquement ne sont que 170 000. Sur les 170 000, 2300, 2500 sont ce qu'on appelle pupilles de l'État. C'est-à-dire qu'on a rompu le lien entre eux et leurs parents. Les autres vont, entre guillemets, séjourner à l'aide sociale enfance et ont vocation, pour l'immensité d'entre eux, à retrouver leur place dans leur famille. C'est tout le travail social qui est fait. Regardez ce qui se passe sur les enfants qui reviennent de Syrie.
Oui.
On va les séparer provisoirement de leur mère, mais avec pour projet, éventuellement, de les confier aux grands-parents.
Alors, sur l'affaire Laetitia Cécile de Oliveira, vous êtes l'avocate de Jessica Perret, donc je le rappelle, qui est la sœur jumelle de Laetitia. On évoquait tout à l'heure en plateau ce qu'écrit Yvan Jablonka dans son livre sur cette affaire hors norme. C'est une affaire d'État, dit-il, à tout point de vue, une affaire d'État parce que le président de la République s'en est emparé avec cette question du suivi des multi-récidivistes, et puis aussi parce qu'il y a eu quand même défaillance des services sociaux. Votre réaction ?
Alors, ma réaction, si vous voulez, concernant ce que vous appelez le suivi des multi-récidivistes, on était dans une situation pour Tony Meillon où un juge de l'application des peines, compte tenu de l'encombrement de son cabinet, avait choisi de ne pas mettre à exécution un sursis mis à l'épreuve concernant une condamnation de Tony Meillon pour un outrage à magistrat. C'est-à-dire que Tony Meillon n'était pas suivi pour des viols pour lesquels il aurait été condamné, mais c'était sur ce sujet très précis. C'est vrai que si on commence à parler, notamment en matière de récidive et de suivi, on est amené à être précis, sinon on est dans une idéologie où on veut faire passer un message sur la dangerosité en général des personnes, et ce n'est pas utile.
À ceci près mettre qu'il était quand même fiché comme délinquant sexuel et n'avait pas signalé son changement d'adresse. Il était donc à ce titre recherché, je crois, depuis le 4 janvier 2011. Le meurtre se produit la nuit du 18 janvier.
Sa compagne avait déposé, son ex-compagne avait déposé une plainte pour viol contre lui dans des conditions très compliquées le 24 décembre 2010.
Oui.
Et il était à ce moment non pas fiché, mais effectivement il devait être entendu dans le cadre de cette affaire. Par ailleurs, Tony Meillon avait été condamné pour de nombreux autres faits extrêmement variés antérieurement.
Oui.
C'était une personne qui, évidemment, était connue, extrêmement connue, des services de police, gendarmerie et de la justice.
Oui, Meillon est âgé de 31 ans quand il commet l'irréparable avec Laetitia. Il n'avait d'ailleurs pas bénéficié de remise de peine. Il avait été condamné 15 fois pour violence, pour des délits et pour le viol d'un co-détenu. On entendra dans quelques secondes Nicolas Sarkozy qui s'était emparé donc de l'affaire concernant la question du suivi des multirécidivistes, et vous me donnerez les uns et les autres votre avis sur la réalité de cette polémique à l'époque et peut-être ce qui a changé depuis. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 19h42, on est toujours en direct dans Europe Soir évidemment avec le débat du Club des Idées consacré ce soir à la série événement Laetitia diffusée tout à l'heure à 21h05 sur France 2. L'histoire de cette jeune fille dont l'assassinat avait bouleversé la France, elle avait été tuée à 18 ans par le multirécidiviste Tony Meillon, et à l'époque, Nicolas Sarkozy avait suscité la polémique car il avait promis des sanctions aux juges en réponse, avait-il dit, à leur faute.
Notre devoir, c'est de protéger la société de ces monstres. Je dis monstres, parlant du cas de Laetitia, il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements. Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute.
Voilà, c'est une faute, Yvan Jablonka. On se souvient du tollé que ça avait suscité, hein. Grève générale des magistrats, ça n'était jamais arrivé.
Il faut se rappeler qu'à cette période, le président de la République attaquait régulièrement les juges. Alors, une chose est de dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il y en a eu dans cette affaire. Une autre est, quand on est président de la République, garant de l'indépendance de la justice, de parler d'un suspect comme d'un monstre, qui est un vocabulaire qui me paraît complètement déplacé ici, ainsi que d'un présumé coupable. On sait très bien qu'il s'agit de présumé innocent.
Yvan Jablonka, il ne s'agit pas de juger les hommes, hein, mais dans la série, d'ailleurs, c'est très bien incarné et très bien joué, le rôle de Tony Meillon. Et quand on connaît le pédigré du bonhomme, on n'est pas loin de la monstruosité quand même.
Moi, mon vocabulaire, c'est de parler des masculinités pathologiques, des masculinités perverses ou toxiques ou criminelles. Mais le terme de monstre, c'est vrai que il n'est pas dans mon vocabulaire, alors même que j'ai travaillé sur la Shoah ou des périodes autrement plus graves.
Ondine Millot, vous êtes journaliste et vous suiviez à l'époque l'affaire Tony Meillon.
Oui, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Les monstres n'existent pas ». Et quand j'entends Nicolas Sarkozy dire « il faut protéger la société de ces monstres », mais c'est en fait comme s'ils tombaient du ciel, comme si c'était des aliens, comme si Tony Meillon n'avait pas été fabriqué en fait par la société. C'est la société qui a fait Tony Meillon. Vous parliez de protection de l'enfance, il était suivi aussi depuis son jeune âge et très très jeune. On remarque...
D'ailleurs, ça pose la question du déterminisme qui est absolument horrible parce que...
Tony Meillon, c'est une escalade par palier. C'est un enfant qui, au départ, est premier de sa classe.
Oui.
Et puis, il y a des violences d'un beau-père, il y a une mère qui le délaisse, il y a une mère qui finit par le placer, par demander son placement. Il y a ensuite de la petite délinquance et ça va crescendo.
Et quelqu'un comme Tony Meillon, il est récupérable quand il sort de prison. Il a pris perpétuité, 22 ans de sûreté avec rétention de sûreté. C'est-à-dire qu'on examinera son cas et sa psychologie dans 22 ans pour savoir s'il a effectivement le droit de sortir. Quelqu'un comme ça, quand on voit la série, quand on sait ce qu'il a fait, c'est quelqu'un qui est récupérable.
Le problème, c'est qu'il aurait peut-être fallu aussi agir plus tôt. Oui. Et c'est ce que montre bien la série aussi et tout le parcours de Tony Meillon. Après, moi, je pense que personne n'est irrécupérable. Il ne faut surtout pas parler comme ça.
Jean-Pierre Rosenfeg, magistrat, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny.
Oui, pour rejoindre ce qu'il dit à Millot, c'était Ceausescu qui parlait des enfants irrécupérables, et des personnes irrécupérables. Donc, méfions-nous. Non, mais ce film, il pose, et vos questions le montrent, une foultitude de problèmes. Alors effectivement, c'est une affaire politique. Quand le président de la République dit un fait, une loi. Et quand au passage, il dit les magistrats sont responsables en se dédouanant et en dédouanant l'État. Car qui finance et qui met en place les magistrats? Qui finance les travailleurs sociaux à l'époque? Parlons très, très crûment, sur Nantes, chaque éducateur de probation avait, sauf erreur de ma part, 150 à 200 situations à suivre. Et c'est encore l'actualité.
C'est ce qu'on voit dans la série aussi.
Bien évidemment. Donc l'État ne peut pas dire c'est la faute de tel ou tel, désigner tel ou tel n'a jamais résolu le problème. C'était une approche très 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 politique. Alors après, deuxième question que vous posiez, est-ce que ça pourrait se reproduire? Oui, ça peut se reproduire. Est-ce que nous mettons en place le suivi qui est nécessaire pour faire en sorte que ces personnes ne soient plus aussi dangereuses qu'elles l'étaient?
Je parle sous votre contrôle peut-être pour rappeler pour les auditeurs et les auditrices, il y a plusieurs cas. Sur le suivi des délinquants sexuels, il y a le sursis avec mise à l'épreuve, surveillé par un agent du service pénitentiaire, d'insertion et de probation. Ouais. Le suivi socio-judiciaire qui impose un protocole de soins.
Qui est une peine complémentaire.
Il y a environ 6300 personnes qui en font l'objet. Le placement sous surveillance électronique.
Tout à fait.
Bracelet électronique par exemple. Et pour les cas les plus graves, c'est ce qu'on évoquait à l'instant avec Tony Meillon, la rétention de sûreté. Oui. Moi j'avais oublié que ça existait parce qu'on en débat
2008.
Beaucoup. Mais ça existe.
C'est 2008.
2008.
Encore faut-il que la cour d'assises l'ait rendu possible et encore faut-il qu'une commission de magistrats sur rapport pluridisciplinaire le décide. Mais encore faut-il surtout, et c'est le cœur du sujet qu'on n'aura pas le temps de traiter, que nous ayons les moyens humains en quantité, mais en qualité, pour traiter ce qui sont les cas les plus difficiles. Or, des éducateurs spécialisés, des magistrats spécialisés, des psychiatres spécialisés dans ce domaine, qui est le plus dur de la justice, le domaine mental, le domaine psychologique, la dangerosité, on n'en a pas les moyens. On est au niveau du néolithique à l'heure actuelle. Or, pour répondre à votre question définitivement, oui, de gros efforts ont été faits sur 15 ans. Mais ils sont largement en dessous de ce qui devrait être fait. Il faudrait une véritable politique pénale au sens large du terme.
Maître de Oliveira, avocate donc de la sœur jumelle de Laetitia, de Jessica Perret, au moment du verdict, j'ai lu que vous vous étiez mise à pleurer et que vous avez dit ces mots. C'est important de le dire parce que ce sont des mots très forts. Des peines aussi lourdes sont difficilement compatibles avec l'idée que je me fais de la capacité de chacun à changer. S'il avait lâché, en parlant de Meillon, s'il avait cessé de raconter une version scénarisée, il n'aurait pas eu une peine comme celle-là.
Oui, mais je pense qu'effectivement, ces peines qui sont des peines exceptionnelles, puisque au-delà de la réclusion criminelle à perpétuité, Tony Meillon a été condamné de la rétention de sûreté, c'est-à-dire à une peine qui commence à s'appliquer après la peine. Ces peines-là sont des peines absolument terribles. Et je ne conçois pas, pour ma part, qu'on puisse décider a priori que quelqu'un aura une peine à exécuter après une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Donc effectivement, ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de la justice, dans laquelle je trouve que les personnes sont présumées innocentes jusqu'à ce qu'elles soient condamnées, contrairement à M. Sarkozy, qui est assez maladroit d'utiliser ce genre d'expression qu'il n'aimerait pas se voir appliquer à lui-même, je pense.
Oui, c'est vrai qu'il a dit « présumé coupable », on ne l'a pas relevé, mais
ouais,
ça a été
une mauvaise idée,
un mot qui avait suscité aussi la polémique. Merci, maître, pour ce témoignage. Yvan Jablanka.
Là, on parle beaucoup de crime, du meurtrier, mais moi, ce que je voulais quand j'ai commencé mon enquête, c'est renverser la perspective et écrire non pas un crime, mais une vie. Écrire la vie de la disparue, de Laetitia, et en quelque sorte l'arracher au crime qu'il a détruite. Et donc, c'est vrai que la vie de Laetitia a été courte et tragique, mais ce que j'ai essayé de raconter dans mon livre, et ce que la série montre de manière magnifique, c'est que c'était une jeune femme formidable, pleine de vie, pleine d'avenir, avec une lumière intérieure que tout le monde aimait. Et je voudrais aussi le dire, parce que cette série, c'est aussi une série qui montre que Laetitia a eu sa part de bonheur, sa part de joie, et montre aussi l'extraordinaire courage, force de vie qu'il habitait.
Mais que sa vie s'est arrêtée, évidemment, trop tôt. Merci à tous les trois. Merci, maître, d'avoir été en direct avec nous par téléphone. Ce qui est fort également, je le souligne dans ce récit, c'est qu'on se passe du point de vue du gendarme en charge de l'affaire, qui est un type absolument formidable et qui a envie de résoudre cette affaire et de comprendre aussi ce qui caractérise le personnage de Laetitia au-delà du meurtre. Voilà, c'est à découvrir. Donc ce soir, les trois premiers épisodes sur France 2 à 21h05. On marque une pause, 19h50. On continue avec le Club des idées. On va, tiens, se changer complètement les idées, justement. On va vous raconter le jour où, avec les archives d'Europe Soir, le jour où Johnny Hallyday s'invitait pour la première fois à l'Olympia. Tout autre chose, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, on est toujours ensemble dans le studio d'Europe Soir avec le Club des idées, bien sûr, qui se poursuit. Et comme chaque soir, on plonge maintenant dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Mathieu Bock.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, on change de sujet après ce débat difficile. Nous sommes le 21 septembre 1961 aux États-Unis. Kennedy vient tout juste d'être élu président de la République. Ça ne nous rajeunit pas. La France est en pleine guerre d'Algérie. Le mur de Berlin se construit et les Français découvrent le rock'n'roll.
Oui, une tornade de vent frais dans cette France des années 60 qui vit encore en noir et blanc. Ce jour-là, le 21 septembre 1961, donc, un jeune chanteur, encore inconnu du grand public, s'apprête à faire son tout premier Olympia. Son nom, Johnny Hallyday, a tout juste 18 ans. Le jeune chanteur est dans sa loge quand Pierre Bouteiller, le journaliste vedette d'Europe numéro 1, qui diffusera ce concert en direct à la radio, lui demande de se présenter. Et Pierre Bouteiller, un peu comme la société de l'époque, ne comprend pas bien ce qu'est le rock'n'roll et cette jeunesse qui se roule par terre. Il questionne assez durement Johnny, qui lui répond timidement.
Johnny Hallyday, 18 ans.
Quel est votre véritable nom ?
Jean-Philippe Smet.
Pourquoi avez-vous choisi ce surnom de Hallyday ?
Eh bien, tout simplement parce que mon cousin et sa femme faisaient un numéro de danse et ils s'appelaient les Hallyday.
Qu'est-ce que vous avez fait comme étude ? Quelle formation avez-vous ?
J'ai fait l'école primaire, c'est tout.
Au cours de votre spectacle, vous êtes habillé d'une façon un peu excentrique, vous roulez par terre. Est-ce que vous en éprouvez le besoin ou est-ce un facteur de succès, un facteur commercial ?
Non, j'en éprouvais pas le besoin, c'était simplement... c'était naturel, quoi. C'était une chose pour le rock'n'roll. Le rock'n'roll, ça se faisait comme ça.
Est-ce que vous croyez que ce que vous faites a une valeur musicale en soi?
Oui.
Que comptez-vous faire plus tard, si la mode du rock passe?
Ben, je compte rester dans le métier d'artiste, enfin.
Croyez-vous que cette mode durera?
Certainement, sous d'autres formes, mais ça durera.
Vous le souhaitez pour votre business personnel ou pour...
Non, je le souhaite parce que j'aime ça.
Vous comptez vous marier un jour?
Plus tard.
Et vous comptez avoir des enfants?
Comme tout le monde.
Si vous avez un garçon, est-ce que vous aimeriez le voir se rouler par terre sur une scène?
Si c'est ce qu'il aime faire, oui.
Voilà, et enfin le concert démarre. Pierre Bouteiller raconte en temps réel depuis les coulisses les dernières secondes avant l'entrée en scène de Johnny.
Voici Johnny Hallyday, il passe à côté de moi. Il a sa chemise de smoking pailletée noire, cravate rouge, pochette rouge. Il commence déjà à se remuer. Et l'orchestre Janin sont en train de jouer le morceau d'ouverture. On l'embrasse encore sur les deux joues. Et tu vas les mordre, tu vas les tuer. Hein? Allez, allez! C'est Bruno Cacatrice qui vient de dire tu vas les mordre à Johnny Hallyday. Il vient de boire une dernière gorgée d'eau minérale en lui tendant son micro portatif. Pour l'instant, il s'entraîne, vous l'entendez?
Génial, génial. Il n'est pas très visionnaire, Pierre Bouteiller, parce qu'il demande si le rock'n'roll, ça va durer longtemps.
Ça a duré, ouais.
Bon. En tout cas, Johnny, lui, il est jeune, il débute sa carrière et il n'a pas encore ses tubes comme Retiens la nuit ou L'idole des jeunes.
Oui, ça, ce sera pour bientôt, quelques mois après, fin 61 et en 1962. Ce soir-là, c'est avec cette chanson qu'il électrise l'Olympia.
Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur.
Alors à l'époque, Johnny ne le sait pas encore, mais ce concert à l'Olympia sera pour lui le tout premier d'une longue série, le point de départ d'une longue histoire d'amour avec l'Olympia, puisqu'il s'y produira 266 fois tout au long de sa carrière. La dernière fois seul sur scène, c'était le 9 décembre 2006, et la dernière fois tout court, ce sera en duo avec Sylvie Vartan, 3 ans plus tard.
Bien, merci pour ces archives et vive le rock'n'roll.
Europe 1, Julien Bugier.
19h57, dans un instant, on retrouve l'excellente Émilie Mazoyer qui reçoit ce soir une invitée exceptionnelle, Clara Luciani, qui vient pour soutenir la Fondation Recherche Alzheimer. Et puis juste un mot également pour vous signaler, en écho au débat de ce soir, le podcast à écouter absolument, Sériland, produit par Europe 1 Studio et réalisé par Eva Rock. Retrouvez d'ailleurs le grand entretien avec Jean-Xavier Delestrade, qui est donc le réalisateur de la série événement ce soir sur France 2, Laetitia. Belle soirée sur Europe, et nous on se retrouve, même lieu, même heure, demain 18h, et d'ici là on écoute Le Monde Changer. Ciao.